et c'est l'histoire donc des compagnons de Daniel, vous connaissez, hein, avec ces noms bizarres, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant la statue, l'immense statue en or, etc., qu'avait fait le grand roi Nebuchadnezzar. Et puis, je vais vous lire le texte dans Daniel 3. Il y a ce dialogue que je trouve très très fort. Le roi donc a fait arrêter ces trois personnes, et puis bien sûr, ils savent qu'ils risquent leur vie, et il leur demande ceci, au verset 14. Il prit la parole et leur demanda: Est-il vrai, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, êtes-vous prêts au moment où vous entendrez le son du cœur, du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: Ô Nabuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons ici peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, et c'était pour lui, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Avant qu'on lise la suite, je voulais m'arrêter sur ces premiers versets. Cette réponse, elle est magnifique. Parce que ces gens-là avaient la foi et en même temps, ils ne vivaient pas dans la présomption. Nous, on connaît la fin de l'histoire, alors c'est super. Hein. Moi, quand j'étais enfant, je me rappelle qu'on me racontait cette histoire. Je me disais, ouais, mais c'est cool, ils savaient qu'ils allaient être délivrés, donc ils n'avaient pas peur. Mais ils ne savaient pas du tout qu'ils allaient être délivrés. Il y avait plein de gens qui mouraient, mis à mort par le roi parce qu'ils s'étaient vexés pour une chose ou pour une autre. C'était jamais arrivé que les gens soient jetés dans un feu et meurent pas. Donc, au moment où ils répondent, ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Et leur réponse est magnifique parce qu'ils disent, ben, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Si notre Dieu veut nous délivrer, il peut le faire. Et puis s'il veut pas, il va nous prendre avec lui. Mais de toute façon, ce qui n'est pas négociable, c'est qu'on ne va pas se prosterner devant ta statue. Et puis, ben, c'est à la fois simple et en même temps un énorme défi, et puis quelque chose qui nous interpelle, parce que c'est l'attitude que Dieu veut que nous ayons. Pas de la présomption, ah ben si Dieu est avec moi, il m'arrivera rien, oui je sais, Superman va venir me sortir du feu, et puis je serai jamais malade, je serai toujours riche, en bonne santé, je vais rester jeune, etc. Non? Ben oui, on peut perdre la vie. Dans tout le matériel que j'ai lu, bon, déjà ce qu'on a entendu dans les films, mais. Ils fournissent beaucoup d'autres dossiers. Énormément de gens meurent pour leur foi au moment où on parle, actuellement, dans tous ces pays. Et on peut dire pour ces gens-là, ben, Dieu n'est pas intervenu. Ben si, il était avec eux dans ces moments-là. Pour d'autres, Dieu a agi surnaturellement. Il y a aussi des témoignages dans ce sens-là. Hein. Les gens qui racontent, ils ont dû traverser des endroits, il y avait des émeutes, ça tirait de partout, des gens tombaient de partout. Puis eux, ils ont traversé avec leur famille. Aucune balle ne les a atteints, ils ont été délivrés. On sait que dans l'église primitive à Jérusalem, Pierre était en prison et l'église prie et un ange vient et ouvre la porte et puis Pierre sort. À la même période, quelques semaines de décalage, Jacques est mis en prison dans la même église, au même endroit. L'église prie et on coupe la tête de Jacques. Est-ce que Jacques était moins bon que Pierre? Non. Est-ce que l'église avait mieux prié pour Pierre que pour Jacques? Non. Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Mais nous interpelle pour nous, c'est le fait qu'ils ont fait face à ce qui était devant eux en disant, il y a des choses qui ne sont pas négociables dans nos vies. De toute façon, se prosterner devant la statue en or, ce n'est pas une option. Alors, est-ce que Dieu va nous délivrer ou pas? Ben, il peut le faire, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on va continuer comme ça. Hein. Et puis, ben, le roi. Je reprends, je reviens au texte, prendre une fureur incroyable parce que c'est qui ces trois pingouins-là pour être d'accord avec moi? On refuse de m'adorer, c'est grave. Donc il fait chauffer le feu 3 fois plus que ce qu'il faut d'habitude, hein, vous connaissez l'histoire. Il demande à ses plus costauds des soldats de venir les prendre, de les jeter dans le feu, après les avoir bien habillés avec tous leurs habits, pour être sûr que ça brûle bien, hein. C'est bien dégueulasse. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est tellement chauffé que les soldats qui viennent les jeter dans le feu meurent brûlés par la flamme. Et puis, je reprends la lecture. Donc, aussitôt, les trois hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent, verset 21. Mais comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que le roi fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda: N'avons-nous pas jeté trois hommes tout ligotés dans le feu? Ils répondirent: Bien sûr, Majesté. Eh bien, reprit le roi, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, sans subir aucun dommage corporel. Et le quatrième a l'aspect d'un fils des dieux. Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de fournaise où brillait le feu ardent et se mit à crier: Sortez, etc. Ouais, c'est une histoire assez extraordinaire. On aurait tous aimé être là pour le voir. Enfin, peut-être on n'aurait pas aimé être là, non, parce que. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Est-ce qu'on aurait été à genoux devant la statue pour éviter la fournaise? Mais derrière ça, de façon symbolique, il y a un encouragement pour nous. Tout d'abord, ben, il est dit que les soldats qui les ont jetés dedans ont été brûlés. Alors, on ne se réjouit jamais de la mort des gens, même des méchants, hein. C'est pas du tout ce que ce texte nous dit. Mais de façon symbolique, ce que cette histoire nous suggère pour nous, c'est qu'en fait, les situations qui veulent nous détruire, lorsqu'on reste dans la volonté de Dieu, l'épreuve elle-même va se charger de les éliminer. Et je ne parle pas des gens, hein, mais ça retombe dessus. On sait que le mal, le péché, dans sa manifestation qui est le mal, détruit toujours les gens qui lui donnent leur vie. Et c'est pour ça que c'est valable pour nous aussi en tant que croyants, pas pour vous envoyer en enfer, hein, mais pour détruire nos vies. Richard Wurmbrand, vous connaissez ce pasteur roumain qui a passé plus de 14 ans en prison, disait tous les dirigeants communistes que j'ai connus ont fini torturés et morts aux mains des gens qui les avaient mis en place, sans exception. Et c'est pour ça qu'il disait, j'ai un seul regret après que Ceausescu ait été expédié de façon expéditive, fusillé, j'aurais aimé être en Roumanie à ce moment-là pour le défendre. Quand on se donne au mal, le mal nous détruit, qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est toujours comme ça. Et là, en fait, ben, ces gens-là qui étaient les instruments du mal, ben, sont détruits par ça. Par contre, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la seule chose qui est brûlée, c'est ce qui tenait ces hommes liés. Et je crois, pour avoir tous vécu, à notre niveau à nous, c'était pas ces choses-là, hein. On a tous vécu des moments difficiles dans nos vies, forcément, si on a plus de 6 mois. Et puis, on peut tous témoigner que finalement, quand on est ressorti, alors c'était pas agréable, on n'aime pas ça, on aurait préféré l'éviter, mais quand on a eu traversé ces moments difficiles, on s'est tous aperçus que ça nous avait débarrassé de certaines choses dont on n'arrivait pas à se débarrasser. Et c'est une des façons de Dieu de travailler. Hein, ils sont jetés dans le feu, c'est terrible. La seule chose qui brûle, c'est leur lien. Et c'est intéressant parce que pour nous, en tant que croyants, enfin, en tant qu'êtres humains normaux, avec notre instinct de survie, le but de nos vies, c'est éviter les problèmes, éviter les difficultés, éviter ce que je ne maîtrise pas, éviter ce que je ne contrôle pas, éviter tout ce qui pourrait me faire souffrir. Et puis, dans une mesure, c'est normal, hein, Dieu nous a créés, pas pour souffrir. Mais par contre, lorsque la volonté de Dieu est claire pour nous, on ne devrait jamais reculer parce qu'on a peur de souffrir. Parce que c'est peut-être justement dans cette épreuve-là qu'on va être débarrassé de choses qui nous fatiguent, qui nous font du mal spirituellement, et dont on est incapable de se débarrasser. Et puis on passe au travers de l'épreuve et on s'aperçoit, j'ai perdu quelque chose là-dedans. Ben, c'était des choses que je voulais perdre et que j'étais incapable de laisser par moi-même. J'ai beaucoup aimé, je sais pas si vous avez fait attention, vous l'avez vu comme moi, mais à la fin du petit film, il y avait une photo de frère André. c'est celui qui a fondé le ministère Portes Ouvertes, donc c'est vraiment un très vieux monsieur. Moi, j'ai eu le privilège de l'écouter, c'était en 81 ou 82. Hein, j'étais né, oui. J'avais 6 mois. Hein, mais... Et je sais que cette conférence où j'avais été l'écouter, je me souviens pas de chaque mot, mais en tout cas de l'essentiel de son message. C'est un des éléments essentiels qui ont fait qu'on est parti en mission en Europe de l'Est. Et c'était un homme qui était, bon, un fou, j'imagine toujours, un fou furieux pour Dieu. Cette déclaration qui fait l'endroit le plus sûr au monde, c'est d'être au centre de la volonté de Dieu. Et du plan de Dieu, au cœur. Soyons précis, merci. Hein? J'aime beaucoup cette idée-là, parce que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que tout va aller bien, ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir. Mais il y a quand même une chose à laquelle, ben maintenant je pense, il n'y a pas trop de petits-enfants ici, hein. On sait tous qu'on va mourir un jour. Donc la question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on va mourir ou est-ce qu'on va être éternel sur cette terre. Est-ce qu'on va mourir au bon endroit en faisant ce qu'on doit faire? Ou est-ce qu'on va lamentablement vivre 2 ans de plus, rongé par le remords en disant ma vie n'a pas de sens? Je crois que personne ne veut mourir, c'est clair, c'est normal. Mais en même temps, la question n'est pas là, on va mourir. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? L'endroit le plus sûr au monde, c'est d'être dans le plan de Dieu, au cœur de la volonté de Dieu. Moi, je crois sincèrement à cette chose-là, même si j'ai horreur des épreuves, j'ai horreur de la souffrance. J'en veux pas. Mais je sais que c'est vrai. On a tous vécu. Et puis, ce qui est assez extraordinaire, c'est que donc, ils sont jetés 3 dans ce feu. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi envoie 4. Le 4e homme. Je crois, en tant que croyant, il y a quand même un désir qu'on a tous, c'est voir Jésus. Je ne parle pas spécialement de le voir physiquement, parce que ça ne changerait pas grand-chose. Hein. Quand on voit les disciples qui le voyaient, comment ça se passait pour eux, on peut imaginer que ça serait exactement pareil pour nous. Mais spirituellement, le but de nos vies chrétiennes, c'est quoi? C'est de voir Jésus, de comprendre qui il est, d'avoir une vraie communion avec lui, d'avoir cet échange si fort, si intime, si puissant, qui fait que... Il est tellement réel pour nous, il est là dans tout ce que nous vivons, dans nos pensées, dans nos actes, dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est ce qu'on veut tous. C'est pour ça qu'on se rassemble, c'est pour ça qu'on lit nos Bibles, c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on se retrouve ensemble pour s'encourager. Mais là, on voit que à quel moment ça se passe, ben, c'est quand ils sont jetés dans le feu que le 4e homme apparaît. Est-ce que Jésus n'était pas là avant avec eux? Ben, si, c'était les croyants, il était avec eux, hein. Ils servaient Dieu, ils avaient une vraie foi, etc., quoi. Mais là, ils ont vécu quelque chose d'autre. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit, dit Job, après avoir passé par l'épreuve. Et je crois là aussi, à notre échelle, à nous, hein, chacun dans ce que Dieu a voulu qu'on vive, on pourrait tous témoigner que ben, c'est dans les moments difficiles où la présence de Dieu était la plus forte. Moi, si je repense au moment vraiment tragique de ma vie, j'aimerais surtout pas les revivre, mais c'est dans ces moments-là que ma foi était la plus forte. J'avais aucun doute, je savais que c'était vrai avec une certitude absolue. Dans d'autres moments, je le sais aussi, mais c'est pas pareil. Et c'est pour ça que, encore une fois, on ne cherche pas à fabriquer les difficultés, mais par contre, je pense notre responsabilité, et là où probablement on n'est pas très consistant, pas très conséquent, c'est est-ce que je cherche la volonté de Dieu? Ou est-ce que je veux juste inclure Dieu dans mes plans? Et je vous dis ça, je me le dis à moi, hein, je me le dis souvent d'ailleurs. Mais je sais parce que pour les quelques petites fois où Dieu m'a fait la grâce de marcher dans ses plans, qu'est-ce que c'est bien malgré les difficultés? Aller se coucher le soir en se disant... Si je meurs ce soir, ma vie est tellement pleine que c'est pas grave. J'espère que ça vous arrive souvent quand vous dites ça. C'est-à-dire, ouais, j'ai rien fait d'héroïque, j'ai pas révolutionné le monde, j'ai peut-être pas accompli tous les rêves que j'avais dans certaines choses, mais cette journée avait du sens, tellement que Christ était présent dans chaque chose. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé en lisant tous les témoignages, en voyant ce film, etc., C'était le fait que c'est des gens qui avaient le choix, tout cas ce qu'on a entendu. Ils pouvaient quitter le pays, ils pouvaient aller ailleurs. Et là, je veux faire juste une petite remarque très importante. La volonté de Dieu, ça peut être de fuir physiquement, attention, hein. On a plein d'exemples dans la Bible où les gens ont fui parce que Dieu leur a demandé, hein. Joseph et Marie avec Jésus ont fui en Égypte, Abraham a fui. Enfin, il y a plein de gens qui ont fui, c'était le plan de Dieu. Donc si des gens quittent ces pays-là pour venir se mettre en sécurité ici, évidemment qu'on ne peut pas leur dire, on ne doit pas leur dire, on ne doit même pas penser, oh, ils ont fui. Non. Si j'étais là-bas, je voudrais fuir. Sauf si j'avais la conviction que Dieu veut que je reste. Mais je disais, pour nous, on n'est pas là-bas, on est ici, il faut faire avec. Mais par contre, il y a un enseignement pour nous qui est riche là-dedans. C'est qu'est-ce que je fais devant les difficultés qui sont liées à mon engagement avec Dieu? Est-ce que je fuis ou est-ce que je reste? Et là, je sais que c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce que ben, on a la possibilité, comme ces gens-là, en tout cas certains, pourraient fuir leur pays, alors que Dieu leur demande de rester, hein. Mais moi, je sais que j'ai le choix souvent. Il y a une difficulté, une confrontation, un combat spirituel qui est là, et puis ben, il y a une solution facile, hein, fuir. Quand je dis fuir, c'est pas forcément géographique, c'est souvent pas géographique, hein. Faire autre chose, oublier, passer à autre chose, éviter le sujet, me désengager, reculer, laisser la place, oh ben maintenant, les jeunes s'en occupent, ou si, ou ça, ou dire à Dieu, j'ai pas envie de ça, c'est désagréable, c'est difficile, c'est pénible. Peut-être même je vais souffrir. Je pense à des choses toutes simples. Quand peut-être on a vécu avec Dieu, on a fait confiance, on s'est engagé dans des choses concrètes, et puis on s'est senti trahi, ça s'est mal passé. Les gens se sont retournés contre nous, on n'a pas été compris en tant que chrétien. Alors on peut dire que c'est des petites souffrances par rapport à ceux qui perdent leur vie, mais il n'y a pas de petites ou de grandes souffrances. Quand on vit les choses, si ça nous fait souffrir, ça nous fait souffrir. Et puis Dieu met de nouveau devant nous quelque chose où il nous dit, tiens, je veux que tu donnes ta vie là. Ah non, non, c'est bon, j'ai déjà donné. Hein. J'ai déjà fait, j'ai vu ce que ça fait. Maintenant, oui, je vais aller au culte, oui, je vais donner de l'argent pour l'église, oui, mais je vais pas remettre mon cœur là, je vais pas m'ouvrir. Je veux pas de nouveaux amis qui pourraient me trahir. Je veux pas m'occuper des gens qui peut-être vont se retourner contre moi. Je veux pas renoncer à ma carrière pour ça, puis après je me retrouve tout seul et qui c'est qui vient m'aider? Et là, dans toutes ces situations-là, je prends quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres, hein. Dieu nous dit, mais si tu es au cœur de ma volonté, je serai avec toi. Je ne te dis pas que ce sera facile, je serai avec toi. C'est la promesse qu'on a. Mais quand on va arriver au bout de nos vies, c'est ce qui va faire la différence. J'étais très très encouragé, elle n'est pas là ce matin, alors je peux la citer. J'ai visité Elsie Oswald la semaine dernière. Elle a passé 80 ans en tout cas. Elle avait une petite opération à l'hôpital et puis elle était chez elle. J'ai été la voir. Presque tout le temps de la visite, elle n'arrêtait pas de me dire, qu'est-ce que Dieu est bon. Et je suis tellement reconnaissante de voir comme il prend soin. Et j'étais vraiment encouragé de la visiter. C'est pas facile, on vieillit, être la maladie. Bah, elle est seule dans son appartement. Elle est pas seule, pardon. Elle a des vrais amis et puis elle me l'a dit, hein, qui la visite, qui s'occupe d'elle. Mais il y a je pouvais voir sa foi, et moi, un petit peu plus jeune qu'elle, ça m'a encouragé, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, mais moi, je veux arriver comme ça quand je vais vieillir. Et je trouve d'ailleurs que l'âge accentue les choses, hein. Les gens un petit peu amers deviennent très amers et insupportables, et les gens qui sont doux et qui vivent avec Dieu deviennent encore plus doux. Le vinaigre devient pire et le bon vin devient meilleur. Et je disais, Seigneur, par ta grâce, je veux vivre comme ça. Mais moi, je crois que ça, c'est juste parce que jour après jour, on fait le choix de ne pas fuir. Et je pensais à ce psaume, le psaume 55, je vous en lis quelques versets, c'est un psaume de David. Il a eu sa part de difficultés, certaines il les a cherchées, mais c'est pas la question. Et puis il dit, je suis troublé par les paroles de l'ennemi, par l'oppression que m'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, et je frissonne, saisi d'horreur. Alors je dis, ah, je voudrais avoir les ailes de la colombe, prendre mon vol vers un refuge sûr. je m'enfuirai bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Et je me disais, combien de fois, moi, j'ai pensé ça, hein? En d'autres mots, hein, beaucoup plus actuels. Mais il me gonfle tous ces il sent et j'aimerais bien partir ailleurs et qu'on me foute la paix. On connaît tout ça. Puis des fois, Dieu va me demander de fuir. Mais souvent, ce que Dieu veut, c'est que dans ce moment-là, on fasse face. Au lieu de rallumer la télé, de prendre notre verre, d'allumer un joint, d'ouvrir un livre, ça dépend, ça fait le même effet pour les gens, de dire je vais rester là et je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que cette chose va me détruire ou pas? Ben, je n'ai pas à te répondre là-dessus. Et je crois que souvent, ce que le diable utilise comme arme, c'est de nous faire entrer dans un dialogue qui n'a pas de sens. Parce que il nous projette dans un futur qu'on ne connaît pas. Et puis du coup, on se dit, mais si Dieu faisait ça, ben moi je laisserais tomber et du coup je laisse tomber maintenant. On ne connaît pas le futur. On connaît Dieu juste. Et on n'a jamais la grâce, ça je dis ça par expérience, on n'a jamais la grâce pour traverser une situation à l'avance. Jamais. Et quand on se projette dans une situation à l'avance, alors on recule. Parce que c'est inadmissible, c'est insupportable, on ne peut pas. Moi, je sais qu'il y avait une chose, j'avais dit à Dieu, si tu fais ça, je ne peux pas le supporter, j'arrêterai de te servir. Je ne pourrais pas devenir un croyant, c'est pas possible. Mais en tout cas, je ne voudrais plus jamais avoir rien à faire avec toi. Et puis, ben, j'avais 25 ans, cette chose-là est arrivée. C'était tragique, mais je sais que ça reste pour moi l'expérience où j'ai touché Christ. Je ne veux pas le revivre, c'est une horreur, mais c'était super. Mais ce qui est dramatique, il y avait des chrétiens, c'était pas des amis, mais on connaissait à peu près qui avaient notre âge. Et devant l'épreuve qui nous touchait, ils ont tout laissé tomber. Encore aujourd'hui, ils veulent plus entendre parler de Dieu. Et la raison, on en a parlé ensemble, c'est que ils s'imaginaient que ça leur arrivait à eux, ça leur est pas arrivé. Et puis ils disaient, mais je pourrais pas le supporter. Donc plutôt que de vivre ça, je préfère laisser Dieu de suite. Ce qui est stupide parce que ça peut leur arriver, qu'ils soient croyants ou non. Mais je réalisais combien de fois le diable utilise ça dans ma vie et ça marche. Dieu nous projette dans une situation qui n'est pas là. Hein. Et tu vois, un jour tu seras malade, tu auras le cancer. Un jour tu auras ci, un jour tu seras ruiné, un jour tu seras tout seul, un jour ta femme t'aura quitté, un jour tes enfants seront drogués. Un jour... On n'y est pas dans la situation. On nous projette dedans et là... Ça occupe nos pensées tellement que pendant ce temps-là, je ne suis pas en communion avec Christ, je ne suis pas dans la foi, je suis abattu, je ne peux pas témoigner, j'ai plus envie de lire ma Bible, j'ai plus envie de rencontrer des croyants. Et c'est pour ça que et la seule chose que je veux, oui, c'est hein, donne-moi les ailes de la colombe ou de n'importe quoi, mais pour moi, il fallait plus qu'une colombe, hein, du vautour, mais que je puisse partir, m'enfuir. Et les compagnons de Daniel, là, ce qui est extraordinaire, quand cette voix hein, qui vient, ouais, vous voulez pas vous prosterner, et vous ferez quoi quand vous serez dans la fournaise? Nous n'avons pas à te répondre là-dessus, pauvre. Notre Dieu sera fidèle. On ne sait rien ce qui va se passer. On passe nos vies à se faire du souci pour des choses qui arriveront jamais, et puis les choses qui arrivent, on ne peut pas les prévoir. Hein. Mais on sait une chose, Dieu sera avec nous dans tout ce qui va nous arriver. Par contre, moi, je trouve que la chose la plus horrible que j'ai pu voir et que je vois en vieillissant, c'est rencontrer des gens qui arrivent, bah, peut-être pas au terme de leur vie, mais qui ont déjà vécu un beau bout, et puis qui se disent, j'ai l'impression d'être passé à côté. C'est jamais trop tard tant qu'on est vivant. Hein. J'ai vécu pour moi et je m'aperçois maintenant que c'est nul. Oui, j'ai tout ce que je rêvais, j'ai ma maison en deux exemplaires, j'ai mes trois voitures, j'ai ma collection de montres, j'ai ci, j'ai ça, mes enfants ont une bonne situation. Et j'ai fait quoi avec cette vie qui a passé? Par contre, ben, le contentement qui vient, pas d'avoir fait des exploits, pas forcément d'avoir tué des géants, coupé leur tête, marché sur l'eau, ressuscité les morts. Non, de pouvoir se dire, j'ai vécu avec Christ jour après jour. Ah, ma petite vie tranquille avec mes enfants, en faisant la vaisselle, en allant au boulot. Mais j'étais dans le plan de Dieu, je faisais ce que j'avais à faire. Et puis maintenant, ben, un jour, tu m'as saisi par la main et tu me conduiras dans la gloire. Ça, c'est l'espérance chrétienne. Et moi, je crois, si on vit comme ça ici, ben, on vivrait comme ça si on était ailleurs et que ce soit plus difficile. Et les gens qui vivent ailleurs, le vivent aussi. il y a une provision de grâce pour eux. Et c'est pour ça que je disais au début, ça serait non seulement inutile, mais ça serait contre-productif, c'est pas ce que Dieu veut, si on utilisait un sujet comme ce matin pour se mettre de la culpabilité sur le dos. Oh, tous ces gens qui meurent pour leur foi, et moi je suis là à me plaindre parce que mon téléviseur est en panne. Si on était ailleurs, on vivrait autrement. Et je dis pas ça pour dire que ce qui vivent est facile, attention, hein, c'est ni de la légèreté, ni. Mais là où je suis aujourd'hui, voilà, j'habite ici, je vis ici, je suis suisse ou pas, mais je suis ici, hein. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et puis plus je suis jeune, plus cette question elle est importante, parce que on sait qu'il y a des directions qu'on prend après, c'est toujours possible si on veut, hein. C'est toujours possible si on veut. Mais c'est beaucoup plus difficile de sortir des ornières à 40 ans qu'à 20. C'est possible, hein. J'ai un cousin qui avait une super vie, il a toujours une super vie, mais différente. Un super métier, il gagnait bien sa vie, tout allait bien, tout réussissait humainement et tout. Puis d'un coup, à 40 ans, il se dit, mais je fais quoi? Ma vie va passer et à la fin, j'aurai quoi? Des comptes en banque pleins, j'aurai été travailler tous les jours. Il a vendu son entreprise, il a acheté deux maisons qu'il a louées pour pouvoir survivre et puis il travaille dans une épicerie sociale. Il paye même pas son transport pour y aller et puis il dit, bah, ça, j'ai assez pour manger, et il est heureux. Quand je le vois, j'ai mangé avec lui en France, c'est tellement encouragé, c'est un homme tout simple, normal, c'est pas un héros, c'est pas un prédicateur, il aime Dieu. Il dit, ma vie a du sens. Il se lève à 4h du matin pour faire du pain au feu de bois pour l'épicerie sociale, il est content. Et puis, sa femme est contente aussi parce que son mari est content. C'est génial, ça c'était son chemin à lui, quoi, hein. Mais quel que soit notre âge, quel que soit ne subissons pas la vie juste avec « Oh, bah, faut travailler, faut manger, faut travailler, faut marier, pour avoir les enfants qui s'occupent. » Non, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et puis, d'y être dedans et savoir que quand les questions viennent, « Oui, mais alors si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer à la retraite? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer là ?» Nous n'avons pas à te répondre là-dessus, ô Satan. Le Dieu que je sers est capable de me délivrer. Et si ce n'est pas le cas, il sera avec moi de toute façon. Et c'est ça, vivre par la foi aussi. Refuser ce dialogue-là, refuser les ailes pour partir, quand Dieu me demande de rester. Et puis dire à Dieu, ben, ça va être difficile, mais en fait, ça va être plus facile, parce que là, au moins, je saurai que j'ai besoin de toi. Et puis, je vais crier à toi, et puis, je vais te voir agir. Et quand ça sera passé, et qu'on pourra regarder ça parce que ça sera cicatrisé, et puis qu'on sera passé au travers, on va se dire, ça valait le coup. Ça valait le coup. C'était vraiment utile. C'était bon. Et puis quand on sera dans la vraie vie après celle-là, on va regarder tout ça, et on va se dire, finalement, ouais, comme toutes les formations, l'école, il y a des trucs intéressants, il y a des trucs difficiles, il y a des moments où on est... Mais ça valait le coup. C'était pour ça. Et on a besoin de vivre dans la foi. Sinon, notre vie n'a pas de sens. Et puis, on va arriver au bout en se disant, mais j'ai fait quoi? Quand je pense à ce sujet, j'ai toujours une image qui revient, je termine avec. Hein. Mais c'est dans un film avec Mel Gibson, comment ça s'appelle, c'est Braveheart, où il libère l'Écosse des envahisseurs anglais. Hein. Et puis il a monté cette armée de paysans là, qui savent pas se battre, ils sont avec des bâtons, des fourches, etc. Et puis ils sont tout contents, tout galvanisés, puis quand ils arrivent sur le champ de bataille, en face, il y a une vraie armée, et puis là, ils n'ont qu'une envie, c'est tous se tirer, quoi, rentrer chez eux. Et là, il fait un discours, moi je dis, il prêche, c'est superbe. Il arrive devant, et puis il leur dit, vous voulez tous partir, moi aussi. Vous avez peur, moi aussi. Et vous voulez rentrer chez vous. Ben, rentrez chez vous. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans vos chaumières, quand vous serez en train de mourir, et vous allez vous dire, pourquoi je suis pas mort là-bas ce jour-là? Et là, tous, waaaaaah! Ils se lèvent, ils y vont, et ils gagnent, bien sûr, hein, parce que c'est un film. Mais moi, j'aime cette image, et souvent, je me l'applique pour moi. Quand le diable vient me dire, écoute, ouais, maintenant, l'âge que t'as, pense un peu à toi, t'en as assez fait, laisse ça te faire, et puis après tout, hein, déjà que tu n'as pas cotisé pour la retraite pendant 15 ans, si tu continues en plus à faire ci, à faire ça, être fou, ça ne va pas aller. Et puis là, je me dis, mais je veux faire quoi? Vivre 5 ans de plus dans une maison de retraite sur un fauteuil roulant avec les couches? Non, j'aime mieux mourir. Hein, non, hein, j'ai toujours dit, j'aimerais quand je serai âgé partir missionnaire quelque part dans un endroit très dangereux, hein, finir un héros pour l'évangile, mais c'est super ça, plutôt que de se faire pousser sur un fauteuil roulant, quoi, hein. Une balle dans le dos si possible, que j'ai pas vu venir, un truc qui fait pas mal, quoi, hein. Mais hein, soyons déterminés à suivre Dieu dans ce qui met devant nous, parce que c'est ce qu'il veut. Et je crois que c'est le meilleur hommage qu'on puisse passer. C'est pas une question d'hommage, mais c'est la meilleure façon de participer à ceux qui souffrent là où ils souffrent. Bien sûr, en priant pour eux. Bien sûr, s'il y a des choses matérielles qu'on peut faire, on les fait. Mais aussi, nous, en utilisant la liberté que nous avons, l'argent que nous avons, le temps que nous avons, la santé que nous avons, tout ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, pour trouver la volonté de Dieu et se dire, maintenant, si Dieu m'a fixé ce but-là, je vais ou l'atteindre ou mourir en essayant de l'atteindre. Et puis, c'est comme ça qu'on vit vraiment. C'est Eric Emmanuel Schmitt qui disait, si on n'a rien, si on n'est pas prêt à mourir pour quelque chose, alors on ne vit pas. Et c'est une réalité. Seigneur, on te demande que, comme ces hommes dans le passé, qui ont été prêts à défier les autorités pour te suivre, que nous puissions, nous, dans nos vies, relever les défis que tu mets devant nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas discuter avec ces idées qui veulent nous décourager, nous dire que ça va être horrible, et que simplement nous puissions te faire confiance. Ce que nous voulons, c'est te voir, te connaître, vivre avec toi, quand c'est facile et quand c'est difficile, quand c'est agréable et quand ça l'est pas. Que tu viennes remplir nos cœurs et que nous puissions, en donnant nos vies, trouver nos vies, comme tu nous l'as promis. Merci parce que la vie avec toi a du sens, elle a du goût. Elle remplit l'âme. Et c'est encore une grâce, et nous voulons t'en remercier, Seigneur.